Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux conos.
Salut Christine.
Salut Nico. Bonjour
Comment
aux
ça va?
auditeurs et auditrices de Radio Galère.
Bonjour tout le monde. Alors, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle émission de Radio Galère, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille. Alors Christine, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter le sommaire de cette émission?
Eh bien écoute, nous aurons deux parties. La première partie, nous sommes allés interviewer Julien Arounian, qui représente le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France pour le Sud, pour qu'il nous explique donc la situation, ce qui s'est passé au Karabakh, et avec une perspective historique pour que les gens comprennent hein, cette agression de l'Azerbaïdjan. Et puis pour la deuxième partie, bah écoute, j'avais enregistré les interventions à la fin de la manifestation du 25 novembre contre les violences faites aux femmes à laquelle nous avions participé. Et donc, les gens pourront les entendre, en entendre des extraits. Voilà.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite à toutes et tous une excellente émission. C'est La Gueule Ouverte, l'émission d'Attaque Marseille, et c'est parti.
Un territoire enclavé, une population de 120 000 personnes qui subit pendant 9 mois un blocage de tout, qu'il s'agisse d'aliments, d'énergie. 120 000 personnes obligées de fuir en emmenant quasiment rien à travers un couloir vaguement protégé par des soldats russes. Que s'est-il passé dans le Haut-Karabakh ? C'est ce que nous avons voulu savoir et pour ça, le 30 novembre dernier, je suis allée au local de la jeunesse arménienne de France pour y interviewer Julien.
Je suis Julien Arounian et je suis coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France pour le Sud.
L'Arménie, elle fait l'actualité en ce moment avec ce qui se passe au Karabakh. Voilà, c'est dans le but que les gens comprennent, donc peut-être un petit peu d'histoire pour remettre en perspective et puis quelques mots aussi sur la situation actuelle.
Et merci tout d'abord de mettre la lumière sur cette question du Karabakh. Le Karabakh, c'est un petit territoire qui est peuplé historiquement à 99% d'Arméniens. C'est un territoire sur lequel les Arméniens sont présents depuis des millénaires. Il n'est plus à prouver cette présence arménienne de par cette tradition des églises et des monastères qui témoignent de cette présence-là ancestrale. Et c'est dans l'histoire, en 1921, que Staline décide arbitrairement de rattacher cette enclave à l'Azerbaïdjan. À l'époque, cela fait partie d'une politique de diviser pour mieux régner, où arbitrairement, on est à l'époque de l'Union soviétique, et donc ce territoire est rattaché à l'Azerbaïdjan. Mais comme on est sous l'URSS, les choses se passent, on va dire, sans problème, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, où démarrent les premiers pogroms de Bakou et de Sumgait, où il y a un soulèvement anti-arménien de la part de l'Azerbaïdjan, où commencent les premiers massacres et les premières volontés de vouloir exterminer les Arméniens.
C'était en 88 ?
Exactement, en 88, tout à fait. Où il y a ces premiers signes en fait, qui montrent que l'effondrement de l'Union soviétique, chaque république soviétique veut prendre son indépendance, l'Azerbaïdjan, l'Arménie proclame son indépendance, et le Haut-Karabakh décide aussi de proclamer son indépendance là, parce qu'elle sent justement le danger de l'Azerbaïdjan qui guette aujourd'hui. Et c'est comme ça que démarre la première guerre du Haut-Karabakh. Donc là, on est dans les années 90, qui aboutit par un cessez-le-feu et une victoire des Arméniens. Là, on est en 96. Pendant 30 ans, le Haut-Karabakh a pu être indépendant, vivre en paix, toujours sous la menace de l'Azerbaïdjan, qui a toujours caressé l'espoir et la volonté de récupérer cette terre-là d'une part qu'ils considèrent être la leur, mais surtout pour des raisons à la fois nationalistes et patriotiques, de conquête, de nourrir ce sentiment-là aussi de la population, puisque l'Azerbaïdjan est une dictature aujourd'hui, et toujours une dictature, depuis plus de 30 ans. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu pendant 30 ans des escarmouches, des affrontements à la frontière, et qu'on sentait bien qu'il y ait une nouvelle guerre à éclater. C'est ce qui s'est passé en 2001, lorsque l'Azerbaïdjan décide d'attaquer une nouvelle fois le Haut-Karabakh, cette fois-ci surarmé, suréquipé, aidé par des djihadistes, aidé par également la Turquie, qui avait déjà un lourd contentieux avec l'Arménie et les Arméniens. Et c'est cette guerre des 44 jours qui a été à la fois une violence extrême et qui a abouti cette fois-ci à la perte de la moitié du territoire du Haut-Karabakh, où l'Azerbaïdjan s'est implanté.
Il faut ajouter que quand même ont été utilisées des armes qui sont interdites au niveau international, qui sont les bombes au phosphore, les bombes à défragmentation, qui est complètement interdit par les lois internationales. Hein. Et on n'a pas entendu trop d'écho disant que c'était interdit, que c'était... Voilà, hein. Donc,
Absolument, si on rentre dans le détail, cette guerre des 44 jours, elle a été une grande violence, parce que justement, il y a eu en effet ces bombes à sous-munitions qui ont été utilisées, les bombes phosphore blanc, tout ce qui est interdit dans tous les traités internationaux. Il y a également l'appui de drones ultra perfectionnés et qui ont vraiment attaqué à la fois l'armée et les populations. Donc ça a été un véritable drame. Et depuis 2 ans, l'Arménie a perdu plus de 5 ou 6 000 soldats dans cette guerre-là. Des jeunes générations qui sont revenues de la guerre, qui sont complètement brisées. Et le pays, depuis, vivait dans cette ambiance-là où l'Azerbaïdjan, de toute façon, caressait toujours l'espoir de finir le travail. Et c'est ce qui s'est passé là, il y a quelques mois, où l'Azerbaïdjan a terminé, cette fois-ci, avec moins de violence, mais tout aussi énergique, de vider la population restante du Haut-Karabakh et de récupérer ce territoire-là, où aujourd'hui elle est implantée et où elle se développe. Voilà pour l'histoire.
Est-ce que l'Azerbaïdjan a d'autres visées ?
Absolument. Le but ultime, donc, c'est d'une part nourrir le sentiment nationaliste, mais surtout le but est nourri aussi par la Turquie d'un autre dictateur, Erdogan, que l'on connaît bien aussi en Europe pour d'autres sujets. Il y a le rêve de l'Azerbaïdjan, qui est le petit frère de la Turquie, ce sont des peuples turcs, de rassembler tous les peuples turcophones et de créer un grand couloir entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, tout ce croissant-là, en fait, c'est le panturquisme qui renaît et de recréer ce grand empire ottoman, en fait, de l'époque-là. Et aujourd'hui, le caillou dans la chaussure des Turcs et des Azéris, c'est le Karabakh en premier, mais l'Arménie aussi derrière. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, le Karabakh, ce n'est que le commencement. Le Karabakh, c'est le dos de l'Arménie. C'est ce qui servait aujourd'hui de tampon et zone de protection. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, au-delà d'être aux frontières de l'Arménie, elle a déjà commencé à pénétrer le territoire arménien. Il y a des incursions militaires régulièrement qui sont faites sur le territoire arménien. Et cela...
Elle occupe certains villages à 150 km², hein, qu'elle occupe, qu'on dénonce. On veut faire un tout petit parallèle. C'est comme la Russie qui envahit l'Ukraine, qui envahit donc un pays. Ben là, on a les Azeris qui envahissent l'Arménie et personne ne dit rien, quoi.
Quand vous parliez des militaires arméniens, donc c'est bien les militaires de l'Arménie et pas du Haut-Karabakh qui ont combattu les Azéris.
Absolument, c'est les...
En 2020.
En 2020, sur la dernière guerre de 2020, c'est l'Arménie qui est rentrée en guerre contre l'Azerbaïdjan, soutenue bien sûr par l'armée aussi du Karabakh, mais qui ne pouvait pas affronter seule l'Azerbaïdjan. Mais c'est l'Arménie qui est rentrée en guerre. Et qui et aujourd'hui, si en 2020 on nous disait que le Karabakh n'est pas officiellement un État reconnu par l'ONU et que donc il appartient à l'Azerbaïdjan, en fait, c'est ce qui a été souvent dit. Aujourd'hui, on ne peut plus nous dire, quand l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie, que ce n'est pas un territoire souverain, c'est ce qui a été dit là, reconnu internationalement. Et pour autant, là encore une fois, le monde détourne les yeux comme ça a été le cas en 1915 et sur le génocide des Arméniens, comme ça a été le cas sur l'Arménie, encore une fois, on détourne le regard et on s'occupe d'autre chose, quoi. Circuler, rien à voir.
Parce qu'il faut quand même ajouter qu'il y a eu un référendum, je ne sais plus en quelle année, où quand même il y a eu une immense majorité d'Arméniens qui étaient de rester au Karabakh, et c'est l'autodétermination. Il me semble que dans l'histoire et dans la géopolitique, il y a eu d'autres pays à qui on a reconnu cette autodétermination, ne serait-ce que le Kosovo, etc. Donc pourquoi deux poids et deux mesures encore là aussi, quoi.
Un avenir désirable, ça serait quoi?
L'avenir désirable aujourd'hui, c'est de préserver l'Arménie. C'est de préserver l'Arménie, de consolider les frontières avec l'Arménie, de faire en sorte que les Arméniens d'Arménie puissent vivre en paix. Les habitants de l'Artsakh, puisque c'est comme ça que les Arméniens appellent le Karabakh, c'est les habitants de l'Artsakh ont fui, ils sont aujourd'hui réfugiés en Arménie. Les Arméniens aspirent à vivre en paix sur leur terre. Ils ne veulent plus déjà envoyer des jeunes se faire tuer pour juste en fait sauver leur vie, sauver juste le peu de terre qui leur reste. Donc un, aujourd'hui, c'est protéger l'Arménie et les Arméniens parce que ce soit d'un côté via l'Azerbaïdjan ou de l'autre côté via la Turquie, la menace est toujours présente et il faut rester en alerte. Donc c'est cela aujourd'hui notre travail, c'est d'arriver à cela. Deuxièmement, il y a aussi... Lors des dernières incursions azéries sur le territoire d'Artsakh récemment, des prisonniers qui ont été faits, des prisonniers politiques qui aujourd'hui sont toujours dans les geôles de Bakou et dont on ne parle pas, et qui ne sont pas relâchés, qui vont avoir un procès, mais quel procès équitable et juste on peut avoir quand on sait le régime de l'Azerbaïdjan. Donc il y a aussi la question des prisonniers politiques qu'il faut régler. Et troisièmement, bien sûr, la question aussi de l'Artsakh, cette question-là, cette terre-là, qui est une terre arménienne, où aujourd'hui, on assiste maintenant à un génocide culturel. Il y a des profanations de tombes, il y a des monastères qui sont transformés en mosquées, il y a des... L'Azerbaïdjan veut effacer toute trace arménienne. Voilà. Ça, c'est une vraie volonté affichée. C'est l'ethnocide qui démarre, absolument.
Et il y a donc des demandes sur le plan culturel qui ont été faites, il me semble. J'ai vu passer des pétitions auprès de l'ONU.
Si tu veux, pour que l'UNESCO, par exemple, prenne bien position, c'est à la demande du pays. Tu vois ? Donc comme l'Artsakh n'était pas reconnu au niveau international en tant que pays, il n'y a que l'Azerbaïdjan qui peut dire « je vous demande que ça soit inscrit au patrimoine culturel ». Ah, donc on se trouve là, et ce qui est pire en plus, d'après ce que je sais aussi, c'est bon, ils ont débaptisé toutes les rues, bien sûr, ils ont mis des noms à Azerbaïdjan, et il y a une rue quand même qui s'appelle, je crois, Enver Pacha, hein, donc qui faisait partie du Trimvarium, qui a planifié le génocide des Arméniens, quoi. C'est comme tout d'un coup, on mettait une rue Hitler ici à Marseille ou quoi, donc voilà, ben ça aussi, je comprends pas, je comprends pas que les gens ne soient pas outrés. Après, pendant la guerre de 2020, il y a eu des crimes de guerre qui ont été reconnus, etc. Bon, on va voir un peu, puisque l'Arménie vient d'adhérer à la Cour pénale internationale. Est-ce que ça va être pris en compte ou quoi? Parce qu'effectivement, on a des preuves et tout qu'il y a eu des crimes de guerre. Je ne sais pas, l'ONU, elle fait des résolutions, ou elle dit des choses. Bon, on voit bien que les résolutions ne sont jamais appliquées, alors, parce que les pays vont au-delà. Ils vont au-delà parce qu'ils ont menacé l'Azerbaïdjan et tout, mais elle n'a rien à foutre, l'Azerbaïdjan, elle n'a rien à foutre de ce qu'ils disent, etc. et tout. Elle continue son petit truc, tranquille, etc. et tout. Voilà, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Dico, il y a une crainte énorme, même si les gens pensent qu'on exagère, mais moi je pense qu'il y a une crainte énorme par rapport à l'Arménie. Le problème, c'est que bon, on est enclavé comme la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Géorgie, on est là, petit truc au milieu, et qu'ils veulent donc rejoindre, parce qu'ils appellent le corridor Zanzibar, parce qu'il y a une petite enclave de Nakhichevan qui appartient à l'Azerbaïdjan, et l'Arménie est au milieu. Mais bon, l'Iran a dit, attention, ne touchez pas à mes frontières. Donc voilà, il y a ça. Donc il y a tout un jeu là, il y a tout un jeu. Et donc c'est tout le jeu de ce qui se passe au Caucase et au Balkan, et qui est très dangereux.
C'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre... C'est qu'au-delà de ce conflit qui peut paraître très lointain et pour nous, Français, qui ne nous concernerait pas, en réalité, ce qui se joue en Arménie, c'est un équilibre aussi géopolitique international. Parce qu'il y a des acteurs comme l'Iran qui sont concernés, comme Israël aussi, la Russie, et c'est pas pour rien que ça se passe en pleine guerre avec l'Ukraine. La Russie aujourd'hui qui a été le seul rempart arménien pendant des années, a complètement lâché l'Arménie et les Arméniens sur ces opérations-là, et que quelque part les Européens tournent le dos aussi. Parce qu'il ne vous a pas échappé que nous n'achetons plus de gaz à la Russie, mais qu'on l'achète aujourd'hui en Azerbaïdjan.
Qui est le gaz
qui est le gaz, en effet, acheté à la Russie, qu'on paye plus cher en plus, et qui transite par Bakou pour venir jusqu'à nous pour chauffer les Européens. Donc tout ça a des répercussions aussi. On est sur aujourd'hui une poudrière dans le Caucase qui pourrait aboutir vraiment à une nouvelle guerre mondiale, en fait. Et c'est forcément, c'est sur ça aussi qu'on alerte. C'est que ce problème-là n'est pas juste un problème arménien. C'est un problème de politique internationale qui doit concerner au premier plan les Européens. Parce qu'un jour, nous paierons aussi pour cette inaction d'aujourd'hui. Nous le paierons.
C'est ça. Donc, il y a des gens qui ont actuellement besoin de l'Azerbaïdjan. La Russie en a besoin pour écouler son gaz. Et puis, les Européens ferment les yeux sur la provenance du gaz vendu par l'Azerbaïdjan, quoi.
C'est ça. On a voulu arrêter d'acheter le gaz à la Russie parce qu'elle avait envahi l'Ukraine et donc pour faire des sanctions à la Russie. Sauf que on va encore pire. On va vers un autre dictateur en Azerbaïdjan à qui on ouvre toutes les portes alors que c'est pas mieux. Et ça, c'est clair qu'aujourd'hui, les Européens, c'est encore une fois, c'est le deux poids deux mesures des intérêts économiques au regard des populations civiles. C'est en ça que ce que l'on dit, vraiment, il y a de quoi le dire aujourd'hui, ce monde est pourri. En fait, ce monde est pourri. Oui.
Quand tu as sur la bande aérienne, l'Union Européenne va bien serrer la main à Aliyev et dit que c'est un homme fiable, de confiance, etc. Et c'est une duperie hypocrite parce que tout le monde sait que c'est le gaz russe qui transite par l'Azerbaïdjan. Donc c'est vraiment quelque chose d'inadmissible, quoi, je veux dire.
Et quand on dit que c'est un dictateur, il n'a pas été élu
Il a été élu comme son père a été élu. Donc il prend la suite, hein, comme certaines dynasties, hein, voilà. Donc après, c'est très bien les répressions qu'il y a dans son pays et tout ça, hein, tout ce qui se passe, comme dans beaucoup de pays où c'est dictatorial, même s'il y a un semblant de démocratie, entre guillemets, parce qu'il y a eu une élection, hein. Je veux dire, c'est pareil, je sais pas si tu as eu les dernières élections en Corée, où exceptionnellement ils sont pas à 100%, ils sont à 98%. Donc voilà. C'est ça, hein, je veux dire, qui se passe. Bon, moi, je vais le dire quand même. Moi, Zelensky me fatigue. Il me fatigue parce que c'est le grand copain d'Aliyev. Il est allé le féliciter après la guerre de 2020. Et là aussi, il faut regarder ce qu'il fait aussi, je veux dire. À un moment, tout le monde doit être derrière l'Ukraine parce qu'ils sont envahis. Je trouve que c'est pas normal qu'ils soient envahis comme ça. Mais leur président, je veux dire, il va féliciter un dictateur qui vient de faire en exil 100 000 personnes, je veux dire. Et il faut voir ce que ça veut dire pour un petit pays comme l'Arménie de 3 millions de personnes, d'absorber comme ça 100 000 personnes. Si on fait un calcul un peu relatif, à moins que je me trompe, c'est comme si tout d'un coup en France, on recevait 2 millions de Français. 2 millions. Donc, comment on les absorbe, quel accueil on fait, etc. Et franchement, je trouve que l'Arménie, elle se débrouille, elle a des soutiens, mais franchement, elle se débrouille, je veux dire. Bon, et les femmes, elles ont joué un grand rôle aussi. Que ce soit pendant, parce qu'il ne faut pas oublier le blocus de 9 mois quand même, hein. 9 mois de blocus. Ça arrivait au compte-gouttes, mais vraiment au compte-gouttes, l'alimentation, vraiment au compte-gouttes, grâce à la Croix-Rouge internationale, qui de temps en temps pouvait faire passer un camion. Il y avait des tickets de distribution qui étaient donnés aux habitants. Ils faisaient tous la queue pour avoir un peu d'alimentation, et parfois ils n'avaient rien. Et il y a eu toute l'ingéniosité des femmes qui, avec ce qu'elles pouvaient trouver dans leur placard et tout, arrivaient à faire des plats pour nourrir leurs enfants. Hein, qui souvent aussi vivaient dans les caves parce qu'ils avaient peur des bombardements et tout. Et puis, ils ont fait en sorte que le gazoduc soit en panne régulièrement. Ils interdisaient aux Arméniens d'aller réparer et tout. Pas d'électricité, pas de gaz. Enfin, voilà. C'est un peu... C'est un blocus un peu, si on fait un parallèle, de ce qui se passe un peu à Gaza. Je veux dire, voilà, il faut le dire, le parallèle. Et c'est vrai que, bon, Israël ayant peur de l'Iran, parce que ça se passe comme ça, est un grand pourvoyeur d'armes pour l'Azerbaïdjan. Mais je pense que, voilà, c'est ça la géopolitique. Hein. C'est-à-dire que, voilà, comme il a peur que l'Iran se révolte, attaque, etc., donc, ben, il pourvoit en armes quelqu'un qui est à côté, qui pourrait le soutenir au cas où. Voilà, c'est vraiment un grand jeu, quoi.
Oui, c'est un grand jeu dans lequel les Arméniens sont aujourd'hui des pions qui sont baladés. Et la situation aujourd'hui en Arménie, elle est stable. Mais elle est stable en effet parce qu'il y a eu, de la part de l'Arménie, une volonté, une force et un courage énorme d'arriver à accueillir cette population-là. Et tu l'as bien dit, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne de tous ces réfugiés-là, personne n'a pas de toit. Tout le monde a un toit, ils ont réussi à faire cela, et c'est un tour de force pour un si petit pays qui est énorme. Par contre, les besoins sont terribles à côté. Besoin de première nécessité, besoin courant, parce que ces personnes arrivent, elles veulent travailler, mais pour le moment pas de travail. Donc il faut, l'hiver arrive, il faut se chauffer, il faut bien manger, il y a des enfants. Donc tous ces besoins-là, ils existent. Et c'est ça aussi le travail de première urgence que l'on fait, le travail humanitaire. Il y a tout en Arménie pour subvenir à ces besoins-là. Le problème, il n'est pas matériel, le problème, il est vraiment financier. Ces personnes, elles arrivent, elles doivent s'intégrer aujourd'hui dans quelque part, même si ce sont des frères dans un nouveau pays pour elles. Mais au moins, l'Arménie a réussi cela. C'est-à-dire que ben, tout le monde est accueilli, tout le monde a un toit pour dormir au moins. Mais ça a été fait avec peu de soutien et d'aide. Parce qu'à côté de ça, bah, les grandes puissances autour s'amusent du sort des Arméniens. Et notre travail, il est de faire aussi ce lobby-là auprès du président de la République française aussi, pour alerter sur ce qui se passe.
Des groupes de parole aussi en arménien qui sont faits par des groupes de femmes aussi, au niveau psy, parce que c'est un traumatisme que les gens subissent, surtout les enfants. Et surtout les enfants. Et ça, c'est important parce que il faut qu'ils se reconstruisent quand même, parce qu'ils ont vécu pendant plusieurs mois, dans la crainte, sous la peur, avec affamés parfois. Et donc, ces enfants-là, ça devient la priorité. Et c'est bien que ces groupes de femmes s'occupent de ça. Je crois qu'il faut quand même aussi le souligner. Ça se fait aussi en Arménie, je veux dire, donc par des groupes de femmes en Arménie. Et ça, je pense que c'est important.
Oui, c'est important. oui, une question sur la diaspora arménienne. Il y a une forte présence arménienne en France, et il y en a dans d'autres pays. Et d'où ça vient ?
C'est les vagues successives d'immigration qui ont pu avoir lieu, qu'il s'agisse après le génocide, les premières, parce qu'il y a eu ces déportations-là et qu'il y a eu le génocide, comme après il y a eu l'immigration économique qui a continué. Donc c'est vrai que la France, comme les États-Unis, ont trouvé des très fortes communautés, mais un peu partout en Europe. Et aujourd'hui, ces communautés-là parlent entre elles. Nous, on adhère à un mouvement qui s'appelle European for Artsakh, qui rassemble 500 associations en Europe, 500 dans divers pays européens, qui justement coordonnent cette diaspora, qui se coordonne au niveau européen, parce que c'est là qu'est l'enjeu aujourd'hui, c'est là que les choses se décident, pour justement agir pour défendre l'Artsakh et l'Arménie aussi. Donc, en effet, c'est un poids aujourd'hui non négligeable, en tous les cas, et indispensable aussi pour aider et soutenir nos frères et sœurs d'Arménie.
Ouais. Merci. Merci.
Bellow, who will believe we got par? It's a sign of the times, like a cliche written non-stop. Full metal jackets get sprung, tanks are boiling, a bag the gunner. Stop, there's a drop-off. Auntie Air and Vladimir's guy's top off. This guy's top off quick, reach for your bits. Shit, he's so fit. Big banger, number 10, can't give you that Bruce Banner. I got crisis stamina, full marathon, four poop breaks. I can feel the ship. Your crisis race, spray out my back, because in England, nobody can hear you scream, you're just fucked, lads. This is UK Grim, keep
that they're scary and tiger. Put it in the bed. This is UK Grimm. This is UK Grimm. Keep that they're scary and tiger. Put it in the bed. This is UK Grimm. An hypocritical fate. There's no top five album when you're off the grid. Fuck all that. I'm not here to please you, mate. Liz Truss, conformity. The smooth streets in the business quarter where the white Range Rovers haunt. They sound lovely. White shirts and lunch bellies. Threesomes and wealth measles. Penetrate the cornflakes. I want it all like a crack forest gatto. I do drugs in my head so I can still go to bed as I pan the slabs of this dream. This is UK Grimm. Keep that desk here and tiger. Put it in the bin. This is UK Grimm. This is UK Grimm. Keep that desk here and tiger. Put it in the bin. This is UK Grimm. Smash the mindset, but when it's gone, leave the trails in the mindset. But when they come like a dawn raid, smash the mindset. This is UK Grimm, put in the bin. This is UK Grimm, put in the bin. This is UK Grimm, put in the bin. This is UK Grimm, put in the fucking bin.
Le 25 novembre, Attaque Marseille était présente et a manifesté aux côtés des associations féministes et des syndicats contre les violences faites aux femmes. Vous allez entendre quelques-unes des interventions qui se sont déroulées devant la préfecture après la manifestation partie des escaliers de la gare Saint-Charles.
Tout ceci, ce sont des choix politiques. Aujourd'hui, pour la 5e année consécutive, le budget des armées a été augmenté, atteignant aujourd'hui 43,9 milliards d'euros. Pour éradiquer les violences conjugales, le rapport de la Fondation des femmes préconise 3 milliards d'euros. Donc il s'agit bien aujourd'hui de choix politiques. Où est passé l'argent contre les violences faites aux femmes?
2021, 2022, 2023, l'impunité tue toujours et encore. Au risque de se répéter, devant cette société où la violence, notamment les violences faites aux femmes, sont de plus en plus palpables, Femmes Solidaires appellent à une prise de conscience générale, collective, urgente, qui mène à des actions concrètes pour faire diminuer drastiquement les violences dans notre société. Le renforcement des services publics, santé, police, justice, éducation, sur tout le territoire, le service public est le mieux placé pour prendre en charge les victimes et faire reculer l'impunité. Et le pacte fondateur de la lutte contre les violences faites aux femmes. La construction d'une culture d'égalité dans toutes les sphères de nos vies et à tous les âges, crèches, écoles, entreprises, loisirs et sports. La protection renforcée des enfants, victimes directes ou collatérales des violences sexuelles et sexistes. La première préconisation de la CIVISE doit devenir une priorité dans le monde de l'éducation. Demander à chaque enfant, chaque année, s'il a été victime de violence. Peut-être qu'un jour, le 25 novembre, je ne sais pas quelle année, nous défilerons en constatant que les violences ont diminué.
Qui sont les violences économiques dans la sphère privée et dans la sphère publique. Dans la sphère privée, rappelons que la violence économique a longtemps été légitime. En France, depuis 1965, les femmes devaient demander l'autorisation de leurs époux pour ouvrir un compte et exercer une profession. La violence économique est un élément central de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, puisque l'argent est un moyen de pression puissant utilisé par les conjoints violents. Tous les profils sont concernés, des foyers modestes aux plus aisés. 55% des femmes victimes de violences économiques ont un salaire. Les violences économiques et administratives constituent des privations et contraintes qui participent à l'isolement, à la perte de l'estime de soi. Vol de documents administratifs, d'argent, soustraction des comptes d'accès aux différentes administrations, aux comptes bancaires, destruction de biens, enfermement, empêcher de conserver un emploi, privation d'autonomie, confiscation de revenus, de véhicules, de tout moyen de paiement. Ces violences économiques constituent une volonté d'aliénation, de dépendance à l'autre et sont commises dans certains cas avec l'utilisation des outils numériques, cybercontrôle des violences, des dépenses, moyens pour accéder aux comptes bancaires, contrôle des démarches administratives, détournement des prestations de la CAF par exemple, ou autres. Les cyberviolences économiques ou administratives visent à réduire l'autonomie financière. Dans de tels contextes, il est difficile pour les femmes de sortir de l'emprise ou de s'échapper sans revenu ni avenir économique, alors qu'il est aisé pour le compagnon tout-puissant de l'abandonner sans ressources. Il est essentiel de communiquer sur l'importance de l'autonomisation économique des femmes afin que, confrontées à des violences de tous ordres, leur indépendance économique constitue un atout pour avoir le courage de se libérer de l'emprise d'un compagnon. L'enseignement de l'égalité femmes-hommes, incluant la lutte contre les violences faites aux femmes, doit être développé, amplifié, rappelé, que ce soit aux classes de primaire, collège et lycée. Les violences économiques dans la sphère privée constituent un fléau, comme toutes les violences faites aux femmes. Des réponses peuvent y être apportées dès l'instant où les acteurs politiques, économiques, ont la volonté d'aller au-delà des mots en mettant en œuvre des mesures concrètes qui tendent à une société plus juste. Mais ces violences économiques, elles existent aussi dans la sphère publique. C'est une forme de violence basée sur le genre, moins souvent prise en compte, alors qu'elle affecte la vie des femmes de manière quotidienne et systématique. Elle est une forme de violence basée sur le genre, car elle découle des choix politiques d'une élite qui ne tient pas compte des besoins des femmes, réduisent les services déjà inadéquats dont elles dépendent et relèguent leur sécurité et leur bien-être au second plan. Cette violence peut également accroître et exploiter les oppressions auxquelles les femmes sont confrontées dans la société. Elle provoque, au final, la souffrance des femmes et les expose à un risque accru de préjudice physique, économique et psychologique. En France, les femmes subissent cette violence économique empirée par des décennies de politiques de restriction des services publics. Les femmes représentent 64% des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Ainsi, plus que jamais aujourd'hui, le genre féminin du mot précarité prend tout son relief. Les femmes représentent 57% des adultes rencontrés dans les accueils du Secours catholique. Un pourcentage qui, depuis plusieurs années, s'oriente à la hausse. En 2022, dans un contexte inflationniste, le niveau de vie médian a baissé de 7% sur un an et avoir un emploi ne suffit plus pour échapper à la pauvreté, encore moins lorsqu'on est une femme, chef de famille monoparentale ou retraitée, victime d'accidents de la vie ou exclue du marché de l'emploi. Ainsi, les femmes sont plus vulnérables aux aléas de la vie. Tel est le constat alarmant du rapport cette année du Secours catholique. Les trois quarts des femmes rencontrées vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. La moitié des mères isolées survivent même avec moins de 580 euros par mois, avec un compte en banque à découvert dès le début du mois. Elles confient ne pas pouvoir satisfaire les besoins de base de leurs enfants, notamment une alimentation correcte, un logement stable, des vêtements neufs ou simplement des fournitures scolaires. La précarité des femmes se mesure aussi sur le marché du travail. En conclusion, le rôle et l'image des femmes se transforment historiquement en relation avec les évolutions d'ordre économique qui ont prévalu, particulièrement en Europe centrale occidentale, berceau du capitalisme. À travers les transformations économiques et sociales, capitalisme et patriarcat finissent par se renforcer mutuellement. S'il n'est pas l'unique facteur, le capitalisme en mettant en place des rapports sociaux inégalitaires comme conséquence et aussi condition à son existence, sert explicitement le patriarcat en facilitant l'oppression des femmes. Le patriarcat, quant à lui, est utile au capitalisme en lui fournissant une population dévalorisée dont il va pouvoir tirer un profit maximum et ainsi se développer.
Bonjour à tous, Caroline Chevet pour la FSU. Le travail, chacun le sait, chacune le sait, chacune l'éprouve par son organisation, par les liens de subordination et de service qu'il implique, est un lieu privilégié d'exercice du pouvoir. Et c'est bien pour cela que les violences contre les femmes y sont si nombreuses. Car oui, les chiffres font froid dans le dos. Une femme sur trois déclare avoir été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des comportements sexistes au travail. Un tiers des femmes disent modifier leur comportement, leur tenue, leur trajet en lien avec des comportements sexistes au travail. 25% des agressions sexuelles, 5% des viols se produisent sur le lieu de travail. 8000 viols par an sur les 97 000 en tout ont lieu sur le lieu de travail. Et pourtant, la législation existe et des textes existent. Ils sont insuffisants. Mais si déjà on les mettait en œuvre, si déjà on avait la volonté politique de les mettre en œuvre et de les appliquer, les choses changeraient sur nos lieux de travail. Dans la fonction publique, cette année, nous sommes dans l'année de bilan donc du premier plan d'action égalité professionnelle de 2018. Et tout montre que nous sommes bien loin du volontarisme politique qu'il faudrait pour qu'il porte ses fruits. Dans la fonction publique territoriale, par exemple, seuls 45% des communes et des intercommunalités ont aujourd'hui un plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences sexuelles. C'est bien trop insuffisant et les efforts sont trop différents d'une collectivité à l'autre. Alors qu'un dispositif de recueil et de traitement des violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique est obligatoire depuis mars 2020, il aura fallu attendre juillet 2023 pour que paraisse enfin un cahier des charges concret. Et il aura fallu la détermination des organisations syndicales pour que soit mis l'accent sur les effets des violences intrafamiliales au travail et sur la responsabilité des employeurs pour les faire cesser et pour protéger les victimes. Car le travail ne doit pas rester un lieu de violence et un lieu de silence. Et FSU, nous pensons que le travail doit devenir et rester un facteur de santé, un facteur de protection et osons même le dire un facteur d'épanouissement. Pour cela, avec l'intersyndicale interprofessionnelle, nous exigeons des droits nouveaux pour les victimes des violences. D'abord des moyens conséquents pour mettre en œuvre la réglementation. Une politique volontariste de sensibilisation de tous les travailleurs et les travailleuses et de formation de tout l'encadrement aux violences, à la prévention des violences. L'abrogation du jour de carence pour toutes et toutes, bien sûr, mais en commençant par les victimes de violences, parce que quand on se fait battre et qu'on ne peut pas aller travailler le lendemain, c'est odieux de penser qu'en plus on va perdre une journée de salaire. Et enfin l'interdiction du licenciement, le droit aux absences rémunérées pour faire les démarches indispensables pour se protéger, le droit à la mobilité choisie et l'accès à un hébergement. La France doit aujourd'hui s'aligner sur les pays d'Europe qui ont la législation la plus favorable. On pense à l'Espagne ou à l'Irlande qui ont accompli des progrès, on en est loin aujourd'hui. Il nous faut obtenir aussi les moyens de construire à l'avenir, dès maintenant mais pour l'avenir aussi, une société de l'égalité. Et pour cela, il faut protéger et former la jeunesse. Nous demandons que l'éducation à la sexualité et à la vie affective soit enfin réalisé dans les classes pour tous les élèves et toutes les élèves. On en est loin aujourd'hui. Nous demandons aussi que cessent les projets de décentralisation des infirmières scolaires, des assistantes sociales, des psychologues de l'éducation nationale, ces personnels qui sont en première ligne pour accueillir la parole des élèves, pour les accompagner, pour les aider, pour les protéger, et qui sont menacés sans cesse par des projets qui les éloigneraient des établissements, qui les éloigneraient des écoles. Dans un contexte international dramatique, nous disons notre solidarité avec les femmes opprimées, avec les femmes prises dans les conflits et dont le corps sert d'arme de guerre, avec les femmes qui se soulèvent pour la liberté et qui résistent et luttent pour des sociétés justes. Mais nous disons aussi, ici en France, que pour changer la société, il faut former la jeunesse et il faut agir ici et maintenant sur nos lieux de travail. Merci.
Les violences et les discriminations que subissent les associations féministes et plus particulièrement les associations lesbiennes. Nous sommes toutes réunies aujourd'hui pour dire stop au patriarcat, qui est un système de violence et d'oppression fondé sur l'affirmation d'une prétendue supériorité masculine et la haine du sexe féminin. C'est bien le patriarcat qui oppresse, violente, harcèle, agresse, viole et tue des femmes, des filles, des lesbiennes, en France et partout dans le monde. Nous, citoyennes lesbiennes féministes, souhaitons que soient respectés nos choix. Nous ne sommes pas transphobes, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas fascistes, nous ne sommes pas putophobes, nous ne sommes pas islamophobes. Nous sommes des féministes, universalistes, laïques, abolitionnistes du système porno-prostituteur et contre toute marchandisation et exploitation du corps des femmes et des filles. Et nous demandons, en tant que lesbiennes, le respect de notre orientation sexuelle et le droit à une non-mixité choisie. Le CEL, Centre Évolutif Lilith, association lesbienne marseillaise qui existe depuis 1990, a toujours lutté contre le système patriarcal, contre le fascisme, contre le racisme, contre tous les intégrismes et contre toute forme de discrimination. Contre cette société de profit qui rend les femmes encore plus vulnérables, contre toutes les violences que subissent les femmes, les filles et les lesbiennes en raison de leur orientation sexuelle. Avec nos sœurs féministes d'ici et d'ailleurs, nous nous battons pour un monde plus juste, pour l'égalité des femmes et des hommes en droit et dans les faits, pour la liberté de tous les êtres humains et la fin des rapports de domination, pour la paix. L'idéologie des néo-féministes défendue par les courants queer, transidentitaires, masculinistes veut nous intimider, nous réduire au silence, en nous insultant, en nous agressant, en faisant pression auprès des pouvoirs publics pour nous exclure, nous refuser nos subventions. Nous venons d'apprendre qu'un centre LGBTQIA+ va être inauguré à Marseille en décembre, en grande pompe avec la ministre de la lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard. Ce lieu est soi-disant dédié à toutes les orientations sexuelles et identités de genre. C'est faux. La plus ancienne association lesbienne de Marseille en est exclue. La municipalité a investi 93 000 euros et investira la même somme en 2024. Mais refuse de nous accorder une subvention de 8 000 euros. L'État, la région et le département ont participé au financement qui atteint pour l'instant 250 000 euros. Ils ne nous feront pas taire et nous dénoncerons encore et toujours les violences et les injustices que nous subissons parce que nous sommes du sexe féminin. Stop aux violences faites aux femmes et aux filles. Stop au féminicide, stop à la lesbophobie.
Nous accueillons en ce 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans l'ombre des conflits et des guerres motivées par cette conception dominée par les hommes. La Palestine, le Karabakh et le Kurdistan, à commencer par le Rojava, sont soumis à des massacres de masse, à l'exil et à la migration. Des espaces de vie sont détruits et la mémoire culturelle et sociale des peuples portée par les femmes est anéantie. À l'occasion de cette journée, nous commémorons avec respect et gratitude toutes les femmes qui ont été martyrisées dans la lutte de libération et assassinées en raison de la violence de l'État mâle. Cette politique, qui prend sa source dans une mentalité religieuse, raciste et sexiste, se poursuit dans les dimensions du génocide au Kurdistan. L'isolement absolu pendant 25 ans du penseur kurde Abdullah Öcalan, qui est l'architecte de la révolution des femmes au Kurdistan, les assassinats de nos pionnières au Bakour, Bachour et Rojava, basés sur des assassinats et des technologies de guerre asymétriques, les politiques de guerre spéciales contre les jeunes femmes, les attaques sexistes, la violence sexuelle et la torture sont les pratiques les plus concrètes de la misogynie dans nos territoires. Sur cette base, voici notre attitude et notre appel. En tant que femmes qui disent « faisons du 21e siècle une ère de libération des femmes », faisons du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une occasion de nous organiser plus fortement, d'accroître nos alliances et nos actions et de nous réunir. Poursuivons notre lutte contre toutes les mentalités, les pratiques du système dominé par les hommes afin d'éclairer la vie qu'ils veulent obscurir par la violence, les génocides, les féminicides, les guerres et les massacres. Au lieu de confiner la résistance et la violence et la lutte des femmes à certains jours, à certaines frontières et à certaines heures, faisons de chaque instant un moment de liberté pour les femmes. Développons notre autodéfense, qui est le seul moyen de nous protéger de la violence étatique masculine dans tous les domaines de la vie, comme l'a prouvé la révolution du Rojava. Protégeons la révolution des femmes en prenant position contre l'occupation. Mettons un terme aux politiques et aux guerres religieuses, racistes et sexistes par des actions et des activités communes à l'échelle locale, régionale et mondiale. Menons une lutte holistique et totale contre le harcèlement, les viols et les massacres de femmes par le système patriarcal. Ne nous contentons pas des réformes qui nous sont offertes comme des pots de vin et visons une révolution des femmes. En tant que mouvement pour la liberté des femmes du Kurdistan, nous mettrons fin au massacre des femmes en renforçant notre autodéfense et notre organisation. Nous, les femmes, serons les pionnières de la résistance de la modernité démocratique contre le système patriarcal et la civilisation de classe étatique. Nous avons trouvé la formule magique pour changer le monde. Nous n'accepterons pas un djihad sans jeûne, un djihad sans azadi, une vie sans femme, une vie sans liberté. Et nous marchons vers la révolution des femmes avec jeûne, djihad, azadi, la femme, la vie, la liberté.
Alors, l'agenda.
Ah, l'émission se termine. Il nous reste notre traditionnel agenda. Agenda d'ailleurs qui va clôturer l'année 2023, pardon. Alors tout d'abord, on peut dire que cette émission sera rediffusée le lundi 18 décembre à 10h sur Radio Galère, bien évidemment.
Et puis le même jour,
oui, exactement.
Et le même jour, le 18 décembre, mais à 18h, c'est la manifestation à laquelle Attaque Marseille appelle également, hein, une manifestation nationale, je pense, en tout cas dans le cadre de la journée internationale pour les migrants, contre le projet de loi Darmanin. Vous savez, asile et immigration.
Oui, cette loi qui vient de subir un sérieux revers à l'Assemblée nationale, puisqu'il vient d'avoir un vote, le vote d'une motion de rejet, mais la mobilisation continue, puisque le gouvernement va convoquer au plus vite une commission mixte paritaire pour pouvoir faire passer ce projet.
On vous espère bien sûr nombreuses et nombreux.
Ça
pour,
part de
manifester
la porte ce... d'Aix, hein, voilà.
Porte d'Aix, c'est la porte 18h. D'Aix à 18h, exactement. Et puis maintenant, on va aussi annoncer peut-être quelques événements phares, je vais dire, d'attaque pour cette fois-ci l'année 2024. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur les journées de l'agriculture paysanne qui aura lieu le vendredi 16 et samedi 17 février?
Un petit peu, donc le vendredi 16, en fait, c'est pas tout public, ça sera seulement pour les apprenants et les professionnels, donc c'est pas ce jour-là qu'il faut venir. Ça se passera à la ferme pédagogique du roi d'Espagne, à Marseille, et ça sera donc plutôt le samedi 17 février 2024. Eh bien, écoute, dans la matinée, il y aura le marché. Et parallèlement au marché, Attaque Marseille vous présentera quelques sketchs dans un endroit à proximité du marché. quelques sketchs ayant trait à la vie des paysans, hein. Et puis, l'après-midi, il y aura plein de débats, et le soir, des concerts, de la danse, tout ça, quoi. La fête de l'agriculture paysanne, et bien sûr, des stands tout au long des deux journées.
J'imagine l'occasion à la fois de s'instruire sur ce sujet, et puis de profiter aussi des producteurs locaux qui vont nous proposer toutes sortes de choses à déguster. Donc, je pense que ça sera à la fois un moment convivial et militant. Donc voilà, on invite bien évidemment toutes les personnes à venir ce vendredi, pardon,
ou le
vendredi,
samedi 17
pardon, le samedi, parce que le vendredi c'est pour les apprenants, samedi 17 février à la ferme pédagogique du roi d'Espagne. Autre rencontre cette fois-ci qui aura lieu, qui se tiendra à Marseille mais plus tard dans l'année, c'est du 26 au 28 avril 2024. C'est la rencontre européenne des mouvements sociaux. Donc, Attac fait partie des initiateurs de cette rencontre. Pareil, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette organisation.
Écoute, c'est une organisation au niveau européen. Ceux qui l'organisent, ceux qui l'ont décidé, c'était un petit peu ceux qui faisaient les forums sociaux européens jusqu'à maintenant. Il se trouve là qu'il n'y aura pas d'université d'été des mouvements sociaux en 2024, il y a les Jeux Olympiques, c'est compliqué. Et donc, cette rencontre qui se tiendra à Marseille, parce que bon, c'est eux qui ont choisi notre ville pour sa situation géographique, hein, il faut bien le dire, ça favorise la venue d'Italiens, d'Espagnols, enfin, c'est un petit peu central, quoi. Et parce que aussi, bon, on a quand même une mairie un peu particulière, et on est aussi une ville populaire ou considérée comme telle. Et puis cette rencontre, eh bien, elle sera quand même axée, parce qu'elle aura lieu 6 semaines avant les élections européennes, contre la montée de l'extrême droite, avec l'envie de se à la fois de parler de tous les sujets et de se projeter dans des sociétés qui ne soient pas les sociétés de l'exclusion, du rejet de l'autre, hein, de tout ce que nous promet l'extrême droite.
Bon, voilà. Un mouvement, une rencontre qui s'annonce passionnante, et puis on espère qu'on sera le plus nombreux possible.
Bien sûr, il y aura ateliers, plénières, comme ça peut se passer, hein, dans des rencontres de ce type, quoi. Ça ressemblera un petit peu à une petite université d'été, mais au printemps. Voilà.
Au printemps, exactement.
Je crois que c'est pendant les vacances, hein, cette période.
D'accord.
Okay. Les vacances scolaires.
Pendant les vacances scolaires, c'est bien.
Voilà.
Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de l'agenda. Il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir et puis à nous dire à l'année prochaine.
Voilà.
Et puis on souhaite
bon boudin.
Voilà, bon boudin, et on souhaite à toutes les auditrices et tous les auditeurs de bonnes fêtes de fin d'année, et puis on se retrouve en 2024 pour une nouvelle émission.
Voilà.
Merci Christine, et au revoir tout le monde.
Bon.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attac Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye!